podcast de Radio Vatican.
Francisco Guterres est le nouveau président du Timor oriental. L'ancien guérillero a été élu dès le premier tour de la présidentielle ce lundi 20 mars avec 57% des suffrages. Il était favori du scrutin soutenu par deux partis alliés pour l'occasion, le Frétilin, parti historique de la lutte pour l'indépendance, et le CNRT, parti dit de la reconstruction. 750 000 Timorais étaient appelés aux urnes pour la quatrième fois depuis l'indépendance de cette ancienne colonie portugaise en 2002. Après 24 ans d'occupation de l'Indonésie, cette nouvelle démocratie poursuit son développement économique à travers des accords pétroliers, notamment avec son voisin australien, une stabilité économique qui passe aussi par une stabilité politique. Frédéric Durand est géographe, professeur à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès, spécialiste de l'Indonésie et du Timor oriental. Il revient sur les défis de ce pays pauvre d'Asie du Sud-Est aujourd'hui et analyse ce que représente cette victoire d'un ex-guérillero à la tête de cet État.
Elle représente quand même une certaine continuité puisque le Francisco Guterres est un peu un des représentants des pionniers de l'indépendance du Frétilin, le front révolutionnaire pour l'indépendance du Timor oriental. Donc c'était une victoire relativement attendue et qui marque sans doute la fin d'une génération puisque ce sont les pionniers de l'indépendance qui, donc, en 1975, au moment de la révolution des œillets, se sont battus pour obtenir l'indépendance du territoire qui avait échoué à l'époque puisque le Timor oriental avait été envahi par l'Indonésie.
Et d'ailleurs, pour ce scrutin, le parti de la reconstruction s'était allié au parti historique de la lutte pour l'indépendance.
Oui, alors effectivement, donc le CNRT de Xanana Gusmão, qui était donc un ancien président et ancien premier ministre, s'était allié avec le Frétilin, mais bon, l'alliance était déjà en place depuis au moins 2015, donc c'était quelque chose relativement annoncé, ça n'a pas été une surprise.
Alors Francisco Guterres accède à ce poste de président, pour lequel d'ailleurs il se présentait pour la troisième fois. Au Timor oriental, le président n'a pas de pouvoir exécutif. Quel est son rôle réel?
Alors, la constitution du Timor-Leste a été relativement calquée sur celle du Portugal, c'est-à-dire que le président a surtout un rôle de garant de la constitution et de représentation, bien sûr, du pays. Mais le pouvoir réel est aux mains du Premier ministre, qui est vraiment le chef de l'exécutif, comme le Premier ministre, par exemple, en Angleterre.
Ce qui donne quoi concrètement? Ça veut dire que Francisco Guterres, à ce poste-là, qu'est-ce qu'il va essayer d'insuffler pour le Timor oriental? Qu'est-ce qu'il va proposer, s'il peut proposer quelque chose?
Voilà, alors c'est effectivement un peu la question. Ces élections, bien sûr, les élections présidentielles sont toujours médiatisées et ont un certain retentissement, mais d'une certaine manière, elles sont moins importantes que celles qu'il va y avoir au mois de juillet, qui vont être les élections parlementaires, qui vont dégager une nouvelle majorité ou conforter l'ancienne et qui vont influer sur le choix du prochain Premier ministre. C'est là sans doute que seront les véritables enjeux puisque le pouvoir exécutif donc est aux mains du Premier ministre. Cela dit, justement, le président sortant qui n'a pas souhaité se représenter, Thor Matanroak, qui était lui-même un ancien guérillero, veut justement fonder ou vient de fonder un nouveau parti, le Parti de Libération du Peuple, pour se présenter justement et éventuellement devenir Premier ministre ou qu'un de ses représentants devienne Premier ministre. Et un des reproches donc du président sortant par rapport au travail du gouvernement et du Frétilin était que le gouvernement avait trop mis d'importance à des projets de développement d'infrastructures au détriment d'un travail sur le peuple. Donc un des enjeux, ça va vraiment être de dire comment mettre les activités au service de la population et éviter qu'il y ait une déconnexion entre des grands projets d'infrastructures portuaires, électriques, etc., ou routiers, et l'amélioration de la vie des populations.
Alors justement, aujourd'hui, pour cette très jeune nation, quels sont les principaux défis que va devoir relever ce nouveau pouvoir au Timor oriental?
Alors, les défis sont économiques avec éventuellement une dimension politique. C'est un pays très jeune, il y a plus de la moitié de la population qui a moins de 20 ans, donc même si il y a environ 1 200 000 habitants, donc ce n'est pas un pays très peuplé à l'échelle de la planète, mais bon, c'est quand même pas négligeable. Et il faut donc créer des emplois pour ces jeunes, soit donc à travers l'agriculture, puisqu'une majorité de la population reste quand même rurale, soit dans des activités éventuellement tertiaires ou l'industrie.
Il y a notamment la question du pétrole aussi, des réserves sont de plus en plus épuisées. Qu'est-ce que ça implique pour le Timor oriental ?
Alors effectivement, alors en fait, il y a des réserves importantes, mais qui sont surtout en mer de Timor, entre donc l'île de Timor et l'Australie. Les gisements en exploitation commencent à s'épuiser, donc c'est un problème. Mais il y a un immense gisement principalement gazier d'ailleurs, qui s'appelle Greater Sunrise, qui est en discussion puisqu'il devrait être partagé avec l'Australie. Et en fait, là, il y a un enjeu très important de partage en mer de Timor pour savoir où situer la frontière, puisque ce gisement de Greater Sunrise est plutôt dans la moitié qui correspond par rapport à la ligne de partage de la mer entre la côte australienne et timoraise, c'est plutôt du côté timorais. Mais il y a des discussions par rapport à des différentes manières de calculer la limite maritime. Pour l'instant, l'Australie a accepté de partager à peu près 50-50 avec le Timor oriental ses ressources futures du gisement de Greater Sunrise. Mais les Timorais voudraient avoir plus en disant que c'est plutôt de leur côté de la frontière. Il n'y a pas de raison, selon eux, que les Australiens prennent la moitié. Donc là, ils sont en train de renégocier ce traité, sachant qu'il y a à la fois les royalties de l'exploitation de ce futur gisement et aussi éventuellement le retraitement ou la transformation de ce gaz. Et les Timorais voudraient que les pipelines aillent vers Timor pour créer une industrie des hydrocarbures, alors que les Australiens, eux, voudraient que ça soit fait soit en mer, soit rapatrié vers l'Australie.
Et l'autre défi du Timor oriental, c'est aussi la pauvreté. Quelles sont les mesures qui sont prises, les politiques qui sont prises aujourd'hui pour pallier à ces difficultés ?
Là, peut-être, j'aimerais bien faire un bémol, puisque c'est parfois présenté comme un des pays le plus pauvre du monde. C'est un pays où il y a des réels soucis, c'est vrai, mais en même temps, cette pauvreté est parfois surtout statistique, c'est-à-dire que c'est une économie qui, dans les zones rurales, qui représente encore les trois quarts de la population, est peu monétarisée. Donc, les statistiques internationales, notamment de l'ONU, vont présenter des taux de pauvreté qui ne correspondent pas forcément à ce qui se passe effectivement dans le pays, où beaucoup de gens vont vivre, pas forcément de manière extraordinaire, mais avec une agriculture d'autosubsistance, ce qui ne cause pas de famine ou de graves problèmes, contrairement à ce qu'on voit dans d'autres régions. Donc, effectivement, il y a un enjeu là quand même d'amélioration du niveau de vie qui peut se faire de différentes manières, notamment par de la redistribution au niveau des collectivités locales de la manne pétrolière. Donc c'est ce qui se faisait un petit peu jusqu'à maintenant, mais il y a une réflexion à avoir sur comment en fait pouvoir améliorer les conditions, donc transférer l'argent qui arrive, l'argent des royalties, donc que le pays est en train de thésauriser sur des comptes en banque, notamment aux États-Unis, et comment cet argent et les intérêts du placement de cet argent peut être redistribué à la population.
Et d'ailleurs, les personnels de l'ONU se sont retirés en 2012, c'est aussi un signe de stabilité ?
Oui, oui, absolument. C'est quand même un pays qui a une certaine stabilité. D'ailleurs, la coalition qui a été faite entre donc les deux grands partis de CNRT et Frétiline est aussi une volonté d'aller vers une certaine stabilité politique en se disant, en tout cas c'est ce que pensent les principaux leaders, ils ont intérêt à aller plutôt vers un consensus plutôt que de rentrer dans des conflits politiciens qui seraient au détriment de l'intérêt des populations avec des luttes intestines.
Vous parliez tout à l'heure de l'Australie. Où en sont les interactions avec l'Indonésie cette fois ?
Alors, avec l'Indonésie, c'est une relation qui est assez complexe. Entre les trois, entre l'Indonésie et l'Australie, il y a régulièrement des petites tensions, mais ce sont deux grands voisins. Entre l'Indonésie et Timor-Leste, il y a quand même une volonté des gouvernements timorais successifs depuis l'indépendance en 2002 d'avoir une situation apaisée. Bon, il faut savoir ou rappeler que en 1975, il y a eu un échec d'indépendance qui a amené à l'invasion du territoire par l'Indonésie et une occupation pendant presque 25 ans, jusqu'en 1999, où il y a eu un référendum sous l'égide des Nations Unies et où la très grande majorité de la population s'est prononcée pour l'indépendance. Mais cette demande d'indépendance n'a pas été acceptée par une partie de la classe indonésienne, tout du moins dans les premières années, particulièrement de la part de l'armée. Il y a eu des tensions au début, mais l'Indonésie a eu aussi peur qu'il y ait une commission sur les crimes et de potentiels crimes contre l'humanité faits par son armée au Timor-Oriental. Et donc le Timor-Leste et l'Indonésie se sont aujourd'hui rapprochés. Et même d'ailleurs, l'Indonésie soutient la candidature du Timor-Leste pour intégrer l'ASEAN, la grande association des pays d'Asie du Sud-Est. Donc globalement, aujourd'hui, les relations sont apaisées entre les deux voisins.
Est-ce que sur la scène internationale, le Timor-Oriental est pris en compte et a un vrai rôle ?
Alors, c'est pas forcément, bien sûr, une puissance majeure, puisque c'est un pays qui est grand comme la moitié de la Belgique, donc c'est pas forcément très grand ni par la superficie ni par la population. En revanche, ils peuvent jouer un rôle stratégique, puisqu'ils sont aussi entre l'Asie et le Pacifique. En plus, c'est un pays donc très majoritairement catholique. Il y a 98% de la population qui est catholique, ce qui en fait d'ailleurs le pays le plus catholique du monde. Donc il y a une tradition aussi de dialogue autour des questions de paix qui peuvent faire des éléments de négociation. Ils sont aussi membres notamment de l'association Fer de Lance, qui est l'association des peuples du Pacifique, qui peut aider à résoudre un certain nombre de dossiers, notamment le problème de la Papouasie occidentale, qui est occupé par l'Indonésie, mais avec un mouvement de résistance fort, ou par exemple la manière dont va se passer le référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, qui là peut aussi avoir une incidence, notamment par rapport à la France. Donc c'est un pays qui peut être amené à jouer un rôle dans un certain nombre de processus dans la région Asie-Pacifique.
Des propos recueillis par Blandine Hugonnet.